remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue dans Remue-ménage cet après-midi, mais c'est une voix en différé que vous entendez, puisque Remue-ménage est en vacances. Oui, ça nous arrive quelquefois. Et nous vous proposons cet après-midi une rediffusion. 30. Aujourd'hui, nous sommes de retour de Prague. Rappelez-vous, il y a 15 jours, Viviane et moi, vous avions averti que nous partions pour Prague. Eh bien, ça y est, et nous y sommes allés en compagnie aussi d'Evelyne et en compagnie de plein de gens qui venaient de toute l'Europe pour participer à la Helsinki Citizen Assembly, en français, Assemblée Européenne des Citoyens. Alors, comme ça, tout à coup, Viviane, t'as gardé un bon souvenir de cette assemblée, t'es contente de faire part de tout ce que nous avons vu pendant 3 jours à Prague?
Oui, en plus Prague est une très très belle ville. Alors au début j'ai eu des moments de frustration intense avant le congrès, pendant le congrès, et puis à la fin du congrès j'étais très contente et j'espère que ça va continuer.
Le micro de Viviane n'est pas ouvert, elle va être obligée de tout raconter, on s'excuse. Vas-y Viviane.
Oui, alors Prague, premièrement c'est une magnifique ville, c'est déjà, il faut le dire et le répéter. Et puis la conférence, c'était un moment absolument intense, fou, il y avait plus de 1000 personnes qui se rencontraient du monde entier, enfin non, de l'Europe entière. C'était très fort, à certains moments très frustrant. En tant que femme, parfois, j'ai vraiment voulu taper des pieds. Et puis, à la fin, au contraire, le courage m'est revenu. Et j'ai trouvé que c'était une assemblée qui a valu la peine et qui va surtout continuer. Je suis sûre, je voudrais en tout cas qu'elle donne des choses magnifiques.
Et Evelyne, quelles sont tes impressions? Parce que nous ne t'avons pas beaucoup croisé. Visiblement, nous étions dans un chemin bien différent parce qu'il y avait plusieurs commissions et chacun a participé, a suivi celle qui l'intéressait. Alors, quelle est ton impression à toi?
Moi, elle est très bonne. J'allais avec plaisir parce que j'étais allée il y a une année à Prague et avant les changements politiques de la fin de l'année 89. Alors, j'avais beaucoup envie de sentir la ville. Une fois une certaine liberté retrouvée là-bas et c'était déjà pour moi une bonne raison d'y aller. Et puis j'ai trouvé très intéressante la fondation d'une assemblée telle que celle qui se réunissait là-bas. Je n'avais jamais assisté à la naissance d'un organisme de ce type, disons, et ça m'intéressait aussi pour cette raison-là. Le travail qu'on y a fait, ben, il est relatif, mais je ne crois pas qu'il faut s'arrêter là-dessus, parce qu'effectivement, comme dit Viviane, le travail va continuer. Et on sait bien que quand on réunit plus de 1000 personnes dans une salle, on ne peut pas approfondir des idées. On se retrouve, on échange des informations, mais le vrai travail, il se fait en dehors, souvent dans des heures de solitude ou de petits groupes. Donc, on sait que ces groupes vont continuer puisqu'il y a des commissions constituées qui ont une manière de fonctionner. Enfin, on verra ce qui se passe.
Il faut peut-être rappeler que qu'est-ce que ça veut dire cette assemblée des citoyens d'Helsinki? C'est le projet finalement de faire une Europe des citoyens et des citoyennes, de pas seulement penser que l'Europe se fera au niveau des gouvernements, mais qu'elle se fera aussi au niveau des gens, des citoyens, des citoyennes, et que c'est à travers la constitution de réseaux de gens actifs dans différents à différents endroits et sur différents sujets que se construira vraiment cette Europe.
Mais d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure puisque bien sûr, on va vous raconter un petit peu l'historique de cette réunion-là. C'était pas la première fois que l'idée est venue de se réunir à Prague, ça date depuis longtemps et c'est une grande aventure qui, entre autres, est l'aventure de la libéralisation des pays de l'Est qui a abouti à notre rencontre à Prague. Et je crois que le mot rencontre, c'est une chose importante. En tout cas, moi, le souvenir qui me reste le plus marquant, c'est que c'est vrai, on était souvent très frustrés le premier jour parce qu'il y avait beaucoup de discours. On avait l'impression d'être avec des vieux crabes. On se demandait un peu où on était atterri par moments, très, très masculin en plus, parce que nous n'étions pas vraiment fortement représentés en tant que femmes. Et puis, heureusement, est arrivé le moment des sous-sous-commissions et qui a fait qu'on a commencé à se rencontrer, à se parler. Et là, on a fait des rencontres merveilleuses, entre autres avec des femmes de l'Est que nous n'avons effectivement ici en Suisse peu l'occasion de rencontrer encore pour l'instant. Et alors, ça fera partie d'une deuxième émission que nous vous proposerons, où nous vous ferons partager les rencontres magnifiques que nous avons faites avec une femme estonienne, une femme yougoslave, une femme polonaise, des femmes d'Allemagne de l'Est, enfin bref, qu'on a pu rencontrer grâce à cette rencontre. Alors peut-être pour commencer, eh bien, on se met dans le cœur de l'Europe avec une chanteuse polonaise que vous connaissez bien, puisqu'elle a vécu, elle vit toujours pour l'instant en Europe, c'est Anna Prucznal. Alors, Evelyne, je te propose qu'à nous deux, nous essayons de faire un petit peu l'historique de cette rencontre. Est-ce que tu peux peut-être commencer?
Alors, je dirais que tout a commencé par ce qu'on appelle les accords d'Helsinki, qui ont été signés en 1975 par 35 pays, aujourd'hui 34 avec l'Allemagne réunifiée, c'est-à-dire tous les pays européens sauf l'Albanie, les États-Unis et le Canada. Et ces accords ont mis en route ce qu'on appelle la CSCE, maintenant la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui est une espèce de conférence itinérante qui réunit ces États signataires et qui, depuis 1975, s'est réunie dans différentes capitales pour y travailler, quelquefois 3 années de suite, comme à Madrid entre 80 et 83, dernièrement à Vienne et prochainement à Paris. Alors, dans cet acte final, disons, des accords d'Helsinki, il y avait ce que les diplomates appellent 3 corbeilles. Il y en avait une sur la sécurité en Europe, ou qu'on appelle aussi le décalogue d'Helsinki, avec 10 principes. Une 2e corbeille sur la coopération économique et écologique. Et une 3e sur les droits de l'homme. Mais, les gouvernements se sont mis à travailler sur ces accords pour qu'ils débouchent sur une réalité, disons, vraiment nouvelle en Europe. Mais pas assez vite, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce que pensent un certain nombre de citoyens, ou on peut dire d'intellectuels citoyens, qui trouvent que les choses ne changent pas assez vite et qu'il serait bon, de toute façon, que les citoyens vérifient ce que font leurs gouvernements. On ne peut pas être sûr que les gouvernements travaillent toujours dans le sens de ce qu'on voudrait. Il faut que les citoyens les pressionnent, etc. Alors ça, c'est d'un côté ce qui va donner le nom aussi à l'Assemblée. Et puis d'un autre côté, il y a Václav Havel, qui est aujourd'hui président de la Tchécoslovaquie, qui à l'époque est un dissident, donc à l'époque d'Helsinki, des accords d'Helsinki, qui écrit, qui vit en prison, un peu dehors, un peu en prison, et qui écrit entre autres dans un ouvrage que je traduis de l'anglais, hein, « Politique anti-politique ». Chose comme ça. Et il dit la chose suivante. La perspective d'un avenir meilleur dépend de quelque chose comme une communauté internationale de citoyens qui, ignorant les frontières nationales, les systèmes politiques et les blocs de pouvoir, se tenant à l'écart du jeu des politiques traditionnelles, n'aspirant ni à des titres ni à des honoraires, chercherait à donner une vraie force politique à un phénomène si ridiculisé par les techniciens du pouvoir, le phénomène de la conscience humaine. Alors voilà, il y a un peu ce paragraphe fondateur, je dirais, un peu de Václav Havel.
Oui, donc Václav Havel va proposer à la Charte 77 de reprendre cette proposition. Et c'est eux qui vont faire le premier appel à la constitution d'une assemblée de citoyens.
Voilà. Alors ils essayent de le faire d'abord en 88. C'est ce qu'on nous a dit, moi je n'avais même pas entendu parler à l'époque, où un groupe de citoyens essaye de se réunir à Prague, mais vu les circonstances alors, ils sont poursuivis par la police et ils ne peuvent rien faire.
Mais ils étaient déjà quelques-uns, donc hein, on sait qu'ils étaient déjà une centaine, parce qu'il y avait eu un premier appel en 85, et en 88, ils sont déjà une centaine de tous les pays d'Europe, et ils finissent en prison. Et là, Viviane, on nous a raconté une chose assez rigolote sur cette réunion, significative de ce que peuvent avoir comme poids les événements. Tu nous rappelles cette anecdote?
Oui, c'est une des organisatrices de la conférence, Marie Cantor, anglaise, qui nous a raconté cette anecdote en disant « Oui, en 88, nous sommes réunis là, et la police est arrivée et nous a mis en prison. Les Tchèques dans une prison, les Occidentaux dans une autre. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, nous avons deux chemins peut-être un peu divergents. »
C'est vrai, mais en fin 89, les choses enfin changent. Et fin 89, début 1990. Et le 1er mars 1990, à La Haye, le nouveau ministre des Affaires étrangères de la Tchécoslovaquie, Jiří Dienstbier, qui était d'ailleurs présent à la conférence, alors lance l'idée de la Helsinki Citizen Assembly, qu'on peut appeler HCA si on veut aller plus vite cet après-midi, en disant... La société civile est au pouvoir maintenant, à elle de parler. Et ceci devient l'appel de Prague. C'est une sorte de manifeste qui est signé par un certain nombre de personnalités en mars, avril, mai de cette année et qui lance l'idée d'une première réunion de cette HCA à Prague pour entre le 19 et 21 octobre.
19 et 21.
Pour qu'on jette au fond les bases statutaires de cette assemblée. Et ça, c'est un peu l'histoire.
Voilà. Je crois qu'il faut dire que, brièvement, que cette assemblée, cet appel a été adressé donc à toutes les associations européennes qui ont participé soit à un travail sur le désarmement, sur la dénucléarisation, sur l'environnement et l'écologie, les mouvements de femmes, les mouvements sur les minorités ethniques et raciales et sexuelles. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ?
Les mouvements de paix.
Les mouvements pour la paix, oui. Donc, c'est un appel qui a été fait à toutes ces associations. Et dans chaque pays, se sont créés des comités nationaux qui avaient pour but de contacter le plus d'associations possible et réunir une délégation. À l'origine, la délégation devait être limitée. Par exemple, en Suisse, on ne devait avoir que 15 délégués pour Prague. Mais comme beaucoup, beaucoup de gens avaient envie d'aller participer à cette première rencontre, qui évidemment intéressait beaucoup de gens, et bien finalement, je crois qu'ils n'ont plus, ils ont laissé tomber tout critère de limitation de nombre et tout le monde a pu participer. Ceux qui ont voulu venir ont pu participer. Et donc, ça a donné cette immense rencontre d'un millier de personnes qui se sont réparties dans diverses commissions, inscrites à l'avance. Donc, on avait prévu une structure de travail, parce que bien sûr, on n'allait pas discuter à 1000. Et ces 1000 personnes se sont quand même rencontrées d'abord, une première fois tous ensemble, le 18 octobre au matin à Prague, dans une assemblée plénière d'ouverture, où je n'étais pas à mon grand désarroi et je n'ai pas entendu le président Václav Havel, dissident et écrivain, qui était venu donc parler de son initiative à côté de tous les gens de la Charte 77 et comment lui, aujourd'hui, en tant que président, continue à porter l'initiative qu'il avait faite en 85 la première fois. Oui.
Je rajouterais moi juste une chose, c'est que peuvent être membres de l'Assemblée, pas seulement des membres de mouvements, mais aussi des simples citoyens. C'est important parce que ça peut rebooter une auditrice ou un auditeur qui nous écoute et qui dit « Oh, moi, je ne suis pas membre de ces mouvements-là, donc je ne peux pas y aller ». Le simple citoyen ou la simple citoyenne peut y aller aussi pour son propre compte. Hein. Mm-hmm. Et il y en avait.
Oui, alors l'Assemblée s'est ouverte par un discours de Václav Havel. Alors, il y avait quelque chose quand même d'un peu étrange d'une assemblée de citoyens et citoyennes ouverte par un membre, par le membre suprême d'un gouvernement, par un président. Il y avait une espèce de coupure. Alors, Václav Havel a repris dans son discours un peu cet appel, ce premier appel que tu viens de citer. Il a parlé de son devoir de vérité qu'il a mené pendant toute sa vie et que, pour lui, il peut encore le mener en tant que président. Cette politique apolitique, il peut encore la faire. Il ne veut pas devenir justement un technocrate du pouvoir, mais vraiment mettre en œuvre une politique au niveau des gens. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit dans son discours, qui était amplement suivi par la presse, par la télévision. C'était un gros moment comme ça, un peu un show médiatique. Et puis après, il est parti tout de suite. Et il y a eu, c'est vrai, tout un débat dans l'Assemblée qui était là comme un fil rouge, c'est-à-dire le lien entre la société civile et le pouvoir établi, les institutions, le gouvernement. Et il y a eu beaucoup de discussions. Les Tchèques défendant la position, on peut être à la fois partie prenante de la société civile et d'un gouvernement. Les autres pays, les Polonais, les Hongrois, entre autres, qui se sont exprimés, disant non, ce n'est pas possible. Il y a une dichotomie. Si on fait partie de la société civile, on n'est pas au gouvernement. Il y a eu aussi un très beau discours que j'ai beaucoup aimé. C'était le seul discours fait par une femme cette première journée, par une Pakistanaise, Roshan Dunjiboy, qui est journaliste et qui est réalisatrice de documentaires, et qui est venue pour parler des rapports entre l'Europe et le tiers-monde. Elle a tout de suite été très virulente en disant « Jusqu'à maintenant, on ne connaît de l'Europe qu'un visage arrogant, qu'un visage prédateur. L'Europe, en 1992, l'Europe sera constituée et cette date-là a été choisie aussi par les Américains et les Espagnols pour fêter les 500e anniversaire de la soi-disant découverte de l'Amérique. Est-ce que ça veut dire que cette Europe aura toujours cette même attitude face au tiers-monde ? Et alors là, il y a une très jolie anecdote, c'est qu'elle a parlé à un moment des médias occidentaux, disant que pour eux, le centre du monde, c'était l'Europe, qu'ils ignoraient absolument le tiers-monde, le continent asiatique, l'Amérique du Sud, l'Inde, etc., et qu'ils n'étaient concernés que par l'Europe. Et au moment où elle dit ça, entre dans la salle Oscar Lafontaine, candidat à la chancellerie en Allemagne, et toutes les télévisions se tournent pour
pour filmer l'arrivée de ce monsieur qui ne disait rien, qui n'avait rien à dire sur le moment, et abandonne cette femme qui continue à dire « Oui, mais les médias devraient s'occuper aussi de ce qui se passe. L'Europe n'est pas le centre du monde. » Alors nous entendons justement un petit peu de son discours.
Examples of what I think may be the right direction. The first thing you can do is set an example in living differently. Since it is Europe and not the poor man who cuts down firewood for his fires in India or Africa or Latin America, it is Europe and America who is really responsible for the ecological disaster. It is the multinationals.
Oui, donc elle nous rappelle que c'est l'Europe, c'est l'Occident qui est responsable des désastres écologiques dans le monde et dans le tiers-monde, particulièrement de la déforestation, de la pollution des eaux, etc. Alors nous avons rencontré Roshan Dunjiboy et nous l'avons félicité en disant vraiment vous avez brillamment introduit l'Assemblée, vous avez été l'invité du tiers-monde et vous avez exprimé beaucoup de doutes par rapport à cette Europe qui se construit. Voilà ce que Roshan Dunjiboy nous répond.
Oui. Et je dois dire que, fin des trois jours, j'ai toujours mes doutes. Il me paraît qu'il y a deux choses. Il y a, en ce moment, il y a deux Europes. Il y a une Europe, on peut dire ancienne, qui existe, qui tient le pouvoir en ce moment. Il y a un petit fil d'un nouveau pensée, d'une nouvelle pensée en Europe. Mais je ne sais pas jusqu'à ce moment à quel point cette pensée nouvelle est étendue dans la population. Soyons honnêtes, les gens ici sont d'une sorte d'élite. Ils sont des gens qui ont lutté contre Vietnam, pour Nicaragua, je ne sais pas, pour le pays ici, puis là-bas, ils sont toujours les mêmes gens. Je ne sais pas à quel point c'est plus étendu qu'avant. Moi, par exemple, je vis en Allemagne, et en Allemagne, c'est le contraire. L'intérêt dans les choses internationales diminue. C'est très difficile. Avant, pour un sujet, enfin, une colloque ou un discours ou une discussion de podium sur le tiers-monde, soi-disant tiers-monde, on a eu dans les années 70 un public de 500 personnes, 400 personnes. Aujourd'hui, si on a 30, 20, on a beaucoup, hein. Et c'est pour ça que je me demande si ça n'est pas, maintenant j'utilise un mot un peu fort, une sorte d'inceste. C'est la famille avec la famille.
Par rapport à ce qui se passe à la chute du mur entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, est-ce que ça ne peut pas représenter aussi une menace par rapport au tiers-monde en quelque sorte? Parce que on peut dire que le confort, le niveau de vie des pays de l'Ouest repose beaucoup, essentiellement, sur le fait que le tiers-monde est pauvre, sur l'appauvrissement du tiers-monde. Alors est-ce que l'entrée des pays de l'Est dans ce mode-là de marché, de consommation, ne va pas encore plus poser un problème par rapport au tiers-monde ?
Oui, oui, il y a deux choses. Premièrement, ce qui nous a choqué beaucoup, c'est qu'il y a un racisme dans ces pays qui vient renforcer le racisme qui existait enfin dans les pays de l'Ouest, hein, en Europe. Il y a une deuxième chose aussi, en plus, que les gouvernements communistes avant étaient vraiment, ou soi-disant, je ne peux pas dire, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient une sorte de protection pour nous. L'Union soviétique a toujours pris le part dans des crises internationales, a toujours pris le part des pays de notre pays. Il était une protection militaire aussi pour nous. Et depuis ce tournement des événements, nous sommes tout à fait sans une équivalence, sans une balance contre les États-Unis et l'Europe. Ça est une autre chose. Troisièmement, sûrement le désir et l'intérêt de ces gens pour achever le même niveau de, enfin, étendard économique que vous, va aussi contre nous. Parce que il y a, eux aussi, ils veulent entrer dans le marché. Eux aussi, ils aimeraient vendre leur agriculture, les choses qu'ils ont, en échange. Et ça que nous, tous, retirent plus derrière dans le marché commun. Je ne sais pas, je peux vous dire, enfin, je ne peux pas représenter le tiers monde, mais je peux vous dire, je voyage beaucoup. Et dans tous ces voyages, il y a toujours, je dirais que des gens, ils ont peur, ils ont beaucoup de peur pour ce développement de l'Europe de l'Est. Comme nous avons enfin perdu un protecteur, nous avons perdu des gens que nous avons cru qu'ils étaient des alliés, et on voit qu'on va perdre aussi économiquement. Et en tout cas, les pires racistes en ce moment, je peux le dire ça ouvertement, viennent de là, de l'Allemagne, de l'Est et tous ces pays.
Donc, vous pensez, comme on l'a dit souvent, que la fin du conflit Est-Ouest risque d'aboutir à un renforcement du conflit Nord-Sud?
Ah oui, c'est une chose qui, je crois, c'est, c'est possible. Je crois que les États-Unis, maintenant, ils sont libres. Ils n'ont pas ce conflit Est-Ouest sur le dos. Je crois qu'ils se sont libres maintenant d'arranger le reste du monde comme ils veulent. Et la crise en Golfe est la première partie seulement de ça. Je crois que l'Amérique latine va aussi voir des choses étonnantes. Et j'ai presque l'impression que, enfin, des pouvoirs de l'États-Unis et aussi des pouvoirs qui sont là en ce moment en Europe pensent que maintenant on va arranger les choses comme il nous convient. Et autre chose, ils n'ont pas des dangers. Vous avez vu ça dans le Golfe. La Union soviétique ne dit rien. Avant, il avait toujours. L'Union soviétique était là pour dire ça, ah, pas un pas plus, sinon on va rentrer. Mais tout ça, c'est fini. Et aussi autre chose que je sens beaucoup qu'il y a une peur de nous. Des gens, il y a une volée anti-islamique partout. Il y a un homme de Bulgarie, par exemple, hier m'a posé la question, il m'a dit qu'en Bulgarie, il y a une terreur de la fondamentalisme islamique. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a tellement? Je dis, oui, c'est... Bon, j'ai lui répondu, c'est vrai que le fondamentalisme s'étend beaucoup dans le monde, mais aussi le fondamentalisme chrétien, aussi le fondamentalisme hindou. Il y a beaucoup de choses rigides, extrêmes, oui. Mais tous ces cas, la publicité à la cas de Salman Rushdie, toutes ces choses, il a créé une atmosphère qui... enfin, on peut dire que les gens croient... la personne de tiers monde est une personne irrationnelle, fanatique. Il y a une petite couverture d'éducation occidentale, mais si on déchire ça, bah, ça sort le démon. Sauvage, c'est nous. Et comme monsieur, comment ça s'appelle hier, le France, comment c'est, le monsieur qui a parlé hier, français, et la discussion sur hein? Non, l'autre, hier soir, oui, qui a appelé tous les, enfin, presque tous les Arabes les barbares, ouvertement.
Dernière question, vous avez donné des conseils à l'Europe en quelque sorte. Vous avez dit pour que l'Europe a toujours été arrogante, l'Europe s'est toujours considérée comme le centre du monde par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde. À l'Europe qui se rencontre ici, l'Europe des citoyens, vous avez donné pas des conseils, mais vous avez dit faites attention à nous. Dans quels termes voulez-vous que l'Europe considère les pays du tiers-monde?
Je crois qu'il y a, comme je dis, c'est une chose psychologique. C'est pas une chose de l'argent, donne-nous plus de l'argent. L'Europe n'a jamais accepté autre chose que ses principes, ses valeurs et sa façon de voir les choses. Je crois que si ça ne change pas, si elle n'accepte pas qu'il y a des autres moyens de voir les choses, des autres moyens de vivre qui est aussi valide, qui tient une validité aussi, que nous ne pourrons jamais être, enfin, parler vraiment ensemble. Parce qu'ils jugent tous seulement de ce point de vue. Et ça, non pas d'aujourd'hui, de plus que 500 ans. Et c'est une chose qui est très difficile pour nous aussi, parce que nous avons fait de fautes d'imiter les Européens. Et nous avons oublié que nous ne sommes pas des Européens. Ça ne peut pas aller, c'est fou. Et c'est une chose double qui doit passer à la même fois. Vous devez, enfin, je ne dis pas à vous personnellement, mais en Europe, vous devez essayer de changer cette point de vue eurocentrique. Et nous devons très sérieusement chercher des formes d'organisation